nouvelle vague.
Un rendez-vous cinéma
sur le Bouquet Grandvillain.
Bienvenue dans Nouvelle Vague, l'émission du cinéma Grandvillain et au-delà. Déjà le 10e numéro qu'on est ravis de partager avec vous, même s'il est un peu bouleversé, vous vous en doutez. On a tout de même choisi de vous parler de cinéma, parce que la vie continue. Et si le cinéma en salle, c'est évidemment l'idéal, on a aujourd'hui accès à de nombreux films à visionner chez soi. Avec Flora, on s'est envoyé des messages, comme des bouteilles à la mer, que vous allez ouvrir, on espère. Puis, Mathieu de la médiathèque fera un focus sur la sélection confinement proposée par la médiathèque numérique. Pour rappel, vous pouvez utiliser les services de la médiathèque numérique si vous êtes abonné de la médiathèque. Bonne émission! Nouvelle vague.
Salut Flora, j'espère que tu vas bien. C'est le 3e jour de confinement avec un début de printemps, ça fait un peu drôle. Je repensais dernièrement à un film français, Les combattants de Thomas Caillet qui était sorti en 2014, parce que ça résonne étrangement avec ce qu'on vit en ce moment. C'est l'histoire d'Arnaud, un jeune homme qui va rencontrer une jeune femme, Madeleine, qui est jouée par Adèle Hanel. Et Madeleine est persuadée que la fin du monde approche et qu'il faut s'y préparer. Elle évoque d'ailleurs les catastrophes qui vont mener à la fin du monde et avec Arnaud, ils évoquent les coronavirus. Ça fait un petit peu froid dans le dos, même si elle dit qu'elle y croit pas parce que la prévalence est déjà en train de baisser. Elle va s'inscrire à l'armée, à un stage de sélection de l'armée, auquel participera également Arnaud. Et là, va débuter entre eux une très belle histoire d'amour sur fond de survivalisme. Bref, un très bon premier film français, bien écrit et drôle. Je te recommande, si tu l'as pas déjà vu. Et toi, tu t'occupes comment? Tu regardes quoi?
Tu penses que je suis folle?
On fait quoi?
On reste à l'affût.
Sur nos gardes.
Salut Marilyn, j'ai bien reçu ton message. Je vais comme quelqu'un qui est enfermé depuis 4 jours. Pour l'instant, je m'ennuie pas trop. Je zone pas mal sur la médiathèque numérique que j'avais jusqu'alors pas explorée, pour tout te dire. J'ai pas vu Les combattants, mais tu me l'as vraiment bien vendu. Je suis allée voir la bande-annonce et sur le papier, c'est vrai que ça donne envie. Alors c'est marrant, ou plutôt étrange, mais ce qu'on vit en ce moment, ça m'a fait penser à Problemos d'Éric Judor qui est sorti en 2017. C'est un film qui a quelques défauts, mais qui en même temps analyse assez bien les mécanismes et les réactions des hommes en temps de crise. Je sais pas si tu l'as vu, ça se passe dans une ZAD. Un matin, les défenseurs de cette fameuse zone à défendre qui prône l'amour et le partage s'aperçoivent qu'une pandémie a décimé le reste du monde. C'est une comédie, alors il y a beaucoup de scènes cocasses, mais qui résonnent particulièrement, je trouve, avec ce qu'on peut notamment voir en ce moment dans certains supermarchés. On voit comment une pandémie peut révéler les traits, et plus particulièrement l'individualisme de chacun. Je trouve que ça donne beaucoup à réfléchir. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, mais en tout cas, si tu as d'autres comédies à me conseiller, je suis preneuse.
Je pense qu'il est urgent d'interdire totalement l'usage du portable sur le terrain. On est responsables les uns des autres, Maëva, c'est comme ça ici. L'enfant et Patrice sont électrosensibles, c'est à nous de les protéger.
Et même avec les protections, j'ai encore mal à la tête.
Tu vois? Donc, est-ce qu'il y a consensus?
Oui, d'accord avec toi,
tout le monde. Merci, Maëva.
Boulet.
Alors moi je vous trouve un tout petit peu dur avec elle parce que cette génération ils ont grandi avec les portables.
Et alors
de toute façon c'est pas la peine de s'exciter. C'est le seum, il n'y a plus personne sur Twitter. Ceux qui restent ils font que parler de pain de mie ça me fait chier tu vois. Pain de mie chimique. Attends, en plus regarde comment ils écrivent pain de mie. Ils font même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter.
Non mais Victor déteste Twitter.
Faux, j'ai des Twitter.
C'est clair que c'est chimique le pain de mie mais dans ce cas là on mange plus rien.
Alors, attends, pandémie.
Pardon.
C'est pas pain de mie. C'est pandémie.
Quoi?
C'est une putain de pandémie.
Non, mais c'est pas vrai.
T'es débile toi en fait.
Une pandémie, c'est
elle
une pandémie.
Débile, elle. Non, elle est débile. Problème.
Salut Flora. Oui, c'est pas mal en effet, Problemos. J'aime bien Éric Judor. Et je trouve qu'il épargne personne, à commencer par lui-même, enfin son personnage bien sûr. Et j'avais bien aimé aussi sa série Platane qui a été produite par Canal. Je trouve qu'il va assez loin dans cette série en termes d'humour, c'est assez déjanté. Tu me demandais si j'avais une idée de comédie, et juste avant le confinement, j'ai prêté le DVD du film The Party de Black Edwards à une amie. Je sais pas si tu aimes l'humour burlesque à la Tati, mais c'est un peu dans l'esprit. C'est un film qui date de 1969, et en quelques mots, Peter Sellers joue un figurant indien qui va détruire un décor sur un tournage, et il va se retrouver par erreur invité à la soirée organisée par la production. Et là, évidemment, il va créer malgré lui une belle zizanie et un enchaînement de catastrophes. Voilà, ça fait exploser les conventions de manière très réjouissante. Et puis, c'est très créatif dans la mise en scène, contrairement, je trouve, à beaucoup de comédies qui se reposent un peu trop sur les dialogues. Voilà, donc je te conseille The Party. Et dans un tout autre registre, moi j'ai envie de continuer la série La Servante Écarlate. C'est une dystopie avec un régime totalitaire qui s'est imposé de nos jours aux États-Unis. Les femmes sont complètement infériorisées. Et les servantes écarlates du titre, ce sont les femmes installées dans des familles de dirigeants pour procréer, puisque le taux de natalité a chuté dans ce futur apocalyptique. D'ailleurs, j'ai vu hier un documentaire sur l'écrivaine Margaret Atwood, qui dit que pour son livre dont s'inspire la série, elle s'est inspirée elle-même de faits réels, par exemple l'histoire d'une secte ou le régime nazi. Bon, je t'avoue que la série est assez oppressante, je sais pas si c'est le moment pour regarder ce genre de récit, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si tu regardes des films ou des séries dystopiques en ce moment, ou si tu préfères t'en éloigner pour l'instant. Bon, j'espère avoir de tes nouvelles bientôt et bon visionnage.
Coucou Marilyn, j'espère que tu vas bien. En tout cas, c'est chouette d'avoir de tes nouvelles et surtout des idées de films et de séries. J'ai d'ailleurs vu Les Combattants ce matin, c'était plutôt divertissant. Adèle m'a vraiment trop fait rire, je vois pas qui d'autre qu'elle aurait pu interpréter son personnage de survivaliste. Alors comme j'ai dû m'abonner à OCS pour voir le film, je vais aussi pouvoir jeter un coup d'œil à La Servante Écarlate. Enfin, si ça me plaît, j'en prends pour 30 heures, puisqu'il y a 3 saisons de 10 épisodes qui durent à peu près 1 heure chacun. Ça me fait rebondir sur un film que je pense prendre le temps de voir ces prochains jours. Ça s'appelle Jackie au Royaume des Filles. Je sais pas si ça te dit quelque chose, c'est une comédie de Riyad Satouf sortie en 2014 avec Vincent Lacoste. J'avoue que depuis quelques jours, je me penche sur la filmo de Vincent Lacoste. J'ai vu ce week-end Après Suzanne, le premier court-métrage de Félix Moati, et J'y sais comme Jésus-Christ de Jonathan Zakaï. Pour revenir sur Jackie au Royaume des Filles, c'est une dystopie avec un régime totalitaire, comme dans La Servante Écarlate. Dans la République populaire et démocratique de Bubune, les femmes commandent et travaillent tandis que les hommes leur obéissent et restent à la maison. Comme dans Cendrillon, une cérémonie est organisée pour que la dictatrice de cette république, jouée par Charlotte Gainsbourg, trouve un mari. Les critiques du film sont mitigées, donc je verrai bien ce que ça donne. En tout cas, je pense pas que ça minera trop le moral. J'avoue que pour répondre à ta question sur ma motivation à regarder des films oppressants en ce moment, c'est assez aléatoire d'un jour à l'autre. J'essaye de regarder des films divertissants, ça inclut les comédies mais aussi les films de vampires. J'ai aussi vu La Plateforme, présentée au Festival international du film de Toronto l'année dernière et qui est sortie sur Netflix en fin de semaine. Alors pour le coup, c'est pas vraiment un film humoristique, hein, c'est un film de genre espagnol. Une plateforme remplie de mets nourrit les prisonniers d'une tour du haut vers le bas. Évidemment, ceux qui passent après les premiers étages ont moins qu'eux. C'est une métaphore de la pyramide sociale de notre société qui fait forcément un peu réfléchir, mais bon, ma limite c'est de regarder des films ou des séries fin du monde et plus particulièrement qui parlent de pandémie. C'est dommage parce que depuis le temps que j'avais envie de voir Tchernobyl, ça aurait vraiment été l'occasion. Dans un autre style, je te conseille un film concept, ça s'appelle Dave Made a Maze, c'est un film américain inclassable. On y suit Dave, un artiste trentenaire qui construit un château en carton dans son salon. L'histoire se corse lorsqu'il se retrouve coincé dedans avec des pièges et des créatures issues de son imagination. Je pense que le côté créatif de ce film pourrait vraiment te plaire. En tout cas, si par hasard t'as des films inclassables à me conseiller, je suis preneuse. Hein. Je te laisse parce que demain je télétravaille, prends soin de toi et à bientôt. My beer, playing pinball, yeah, playing pinball.
Flora, ça fait plaisir d'entendre que tu fourmilles d'idées et d'envie. C'est déjà la deuxième semaine, alors c'est vrai qu'il faut se donner des petits défis pour pas tourner en rond, même si on a beaucoup de chance. J'avais vu Jackie et le Royaume des Filles lors de sa sortie en salle et j'étais vraiment emballée par la situation de départ, ce que les scénaristes appellent la reine, comme pour La Servante Écarlate. L'idée est géniale, mais en effet, pour moi, ça marche pas complètement. Enfin, je veux pas t'en dire plus, tu le verras et puis tu me diras. Et je sais pas si tu connais Les Beaux Gosses du même réalisateur et auteur de BD, Rayad Satouf. Mais voilà, c'était son premier film, c'était vraiment excellent. Et c'est d'ailleurs dans ce film qu'a percé Vincent Lacoste. C'est marrant de voir sa trajectoire d'ado boutonneux à des rôles humoristiques. Et aujourd'hui, on peut le dire, c'est carrément le beau gosse du cinéma français, en fait, avec les films de Christophe Honoré ou Victoria de Justine Triet. En tout cas, c'est chouette ton idée de focus. Sinon, le film dystopique que tu évoques, La Plateforme, je connais pas, mais j'ai vu The Snowpiercer avant-hier, je crois, et on retrouve cette pyramide sociale dont tu parles, sauf que là, c'est horizontal, puisque ça se passe dans un train. Le pitch, rapidement, c'est l'humanité qui périt sous la glaciation, et les seuls survivants se retrouvent dans un train qui va faire le tour de la Terre sans jamais s'arrêter. Et ça fait 17 ans, quand le film commence. Les pauvres, évidemment, en bout de train, vont mener une révolte contre leurs oppresseurs de première classe et circuler à travers tout le train pour petit à petit essayer de conquérir ces espaces. C'est le réalisateur de Parasite qui a mis en scène cette dystopie et on retrouve l'utilisation de l'espace suivant les classes sociales et l'humour très noir, sardonique, un peu bizarre. Mais le scénario est pas aussi bien, je trouve. Mais faut que je regarde le film dont tu parles, Dave Made a Maze. L'idée me plaît bien, en effet, avec la réalisation en stop motion. Ça fait penser à Michel Gondry, même si là, si j'ai bien compris, on tend beaucoup plus vers l'horreur. Et en parlant de Gondry, je repense à un autre réalisateur, puisque tu me demandes un film inclassable. Donc je pense à Spike Jonze. Et un film que j'aime beaucoup, c'est Max et les Maxi-Monstres, qui est adapté, comme tu t'en doutes, du classique génial de la littérature jeunesse. En anglais, le titre est... Et très éloquent et mieux, je trouve, c'est « Where the wild things are », ce qui veut dire en gros « Où sont les choses sauvages ?». Évidemment, les choses sauvages sont en nous, et la question du film, c'est comment les domestiquer. Alors même si le personnage est un enfant, c'est un peu notre quotidien du moment, je trouve, dompter la peur et pas se laisser déborder par les émotions, sauf devant un film, évidemment. Et je me demandais si tu avais une idée de film qui apaise. En tout cas, porte-toi bien, bon visionnage et j'espère à bientôt, en tout cas par message. Salut Flora.
Plaisir d'écouter tes messages. Tu parlais de Max et les Maxi-Monstres, qui est l'adaptation d'un album jeunesse. C'est drôle parce que je sais pas si tu le sais, mais Snowpiercer, dont tu as parlé juste avant, est aussi adapté d'une bande dessinée. Celle-ci n'est ni coréenne ni américaine, elle est française. Elle s'appelle Le Transperce-Neige. Elle a été écrite par Jacques Loeb, dessinée par Jean-Marc Crochette et publiée d'octobre 1982 à juin 1983 dans le magazine À Suivre, édité par Casterman. Alors tu me demandais si j'avais une idée de film qui apaise, et en effet il y a un film que je regarde très souvent, car il me fait beaucoup de bien. C'est Libre et assoupi de Benjamin Gedge avec Baptiste Le Caplin, Charlotte Lebon et Félix Moati. Les trois acteurs interprètent trois colocs. Le personnage principal interprété par le manchois Baptiste Le Caplin s'appelle Sébastien. Son truc à lui, c'est de ne rien faire. Sébastien est poussé par ses deux colocs, Anna et Bruno, à faire quelque chose de sa vie. Alors ce qui me fait du bien dans ce film, je crois que c'est de voir quelqu'un qui assume véritablement de ne pas avoir d'ambition. Sébastien est heureux avec peu de choses. Il a une sorte d'innocence très touchante. Il sait occuper son temps, quoi. Finalement, il y a quelque chose de très réflexif dans ce film. Alors évidemment, dire que nous devrions tirer des leçons de ce film dans cette vie confinée que nous menons presque toutes et tous en ce moment, ce serait un peu facile. On a toutes les deux la chance d'avoir un toit, de l'eau, de la nourriture. On a également le privilège de disposer de livres, de CD, de DVD. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, d'une connexion Internet. Je crois qu'on n'a pas véritablement de raison de se plaindre tant que nos proches se portent bien. Les héros de cette lutte contre cette épidémie n'ont pas le temps de se demander s'ils vont jouer aux Sims ou faire une sieste, cuisiner des lasagnes ou regarder l'intégralité de Friends. Ils sont au front pour préserver notre santé, notre sécurité, faire en sorte que nous ne manquions de rien. Ce sont eux, les personnels soignants, les pompiers, les policiers, les agents des collectivités qui maintiennent un service public minimum, les personnes qui travaillent aussi dans des commerces de première nécessité et aussi celles qui les approvisionnent. Je suis sûre que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'on les remerciera jamais assez pour tout ça. Je te vois d'ailleurs chaque soir à 20h de ma fenêtre les applaudir. Je te dis donc à ce soir, prends soin de toi et à bientôt.
Précision sur le service de la médiathèque numérique, il est accessible aux abonnés du réseau des médiathèques de Granville Terre et Mer gratuitement, il suffit de s'inscrire en ligne, et pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, c'est également possible de s'inscrire, mais au terme de la période de confinement, il faudra régulariser l'inscription physique auprès d'une des médiathèques du réseau. Avant d'écouter Mathieu et sa sélection confinement, on va faire une pause musicale avec une chanson qui donne envie de danser, Modern Love de David Bowie. C'est notamment la musique d'une scène culte d'un film noir et poétique, Mauvais sang, de Léos Carax.
Things. nouvelle vague.
Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit.
La nouveauté.
Bonjour Marilyn et bonjour à tous nos auditeurs confinés. C'est le moment ou jamais pour moi de faire un petit focus sur la médiathèque numérique, la ressource numérique à laquelle vous avez accès gratuitement en étant adhérent au réseau des médiathèques de Granville, Terre et Mer. Donc c'est l'occasion d'en profiter. Surtout que la médiathèque numérique, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gros travail de médiation. Et là, en ce moment, ils font régulièrement donc des sélections de films liés à des thématiques de saison ou d'actualité. Et donc forcément, ces deux circonstances, il y a une très belle sélection qui s'intitule « Confiné », avec des points de suspension parce qu'on ne sait pas trop combien de temps ça va durer, mais qui permet donc de retrouver une sélection de films de huis clos, des films qui se placent entre quatre murs. Alors vous le savez peut-être, les situations de confinement, les lieux fermés ont toujours beaucoup inspiré le cinéma depuis ses débuts, au point de définir des genres particuliers comme le film de prison par exemple. Et comme il y a pas mal de choses dans cette sélection, je vais faire le point donc sur plusieurs de ces genres de films en huis clos en mettant en lumière quatre films confinés. On va commencer par évoquer le film « Un condamné à mort s'est échappé » de Robert Bresson. Alors Bresson, c'est un des plus grands cinéastes français, un poète visuel, qui a une réputation d'austérité qui tient parfois au thème de ses films, puisqu'il est souvent question de la foi, de la morale, ou à des choix esthétiques qui peuvent paraître abrupts, comme le fait de n'embaucher que des acteurs non professionnels et de requérir de leur part ce qu'il appelait un « jeu blanc », c'est-à-dire une interprétation la plus neutre et monotone possible, loin de tout effet théâtral. On retrouve cet aspect un peu austère dans son quatrième long-métrage, « Condamné à mort s'est échappé », qui date de 1956. Alors c'est l'histoire, qui est adaptée d'un récit autobiographique, d'un résistant arrêté par les nazis en 1943 pour sabotage et interné à la prison Montluc à Lyon. Alors en fait, il faut passer outre tous les préjugés qu'on pourrait avoir sur le cinéma de Bresson. Imaginez qu'on se trouve ici face au modèle du film d'évasion. Parce que dès que le lieutenant Fontaine est arrêté, il ne pense qu'à s'évader. Dès le début, on le voit tenter de faire faux bond à ses gardes alors qu'il est emmené en voiture à la prison. Il est finalement rattrapé, menotté, mis en cellule. Mais à partir de ce moment, la volonté de s'évader va devenir non pas une obsession, mais une discipline, une hygiène de vie. Et Bresson filme cet homme qui veut retrouver sa liberté à travers ses gestes les plus infimes, qui témoignent de sa patience, en utilisant en voix off le récit de ses travaux pour pallier la rareté des dialogues. On le voit donc raboter la porte en bois de sa cellule avec une cuillère qu'il a réussi à subtiliser, ou tresser une corde avec du linge déchiré et les ressorts métalliques de son chalis. On le voit côtoyer de rares hommes avec qui il arrive à communiquer, notamment son voisin de cellule auquel il parle depuis sa fenêtre, ou d'autres détenus, comme un pasteur à qui il finit par confier son projet d'évasion au moment de la toilette collective du matin. Donc cette répétition des jours est mise en scène avec une grande économie de moyens et un sens poétique incroyable de Bresson, qui met l'accent sur un objet. Par exemple, il y a un plan magnifique sur la fameuse cuillère que Fontaine ne remet pas en place dans sa gamelle. Il isole ces objets à la façon d'un peintre de nature morte. Et il fait la même chose avec les bruits, qui sont des éléments prépondérants de sa mise en scène, et qui soulignent le silence général de la prison par contraste. Par exemple, le frottement des outils de fortune de Fontaine, les coups sur le mur pour communiquer avec son voisin de cellule, les bruits de pas des geôliers, la clé qu'ils font cliqueter contre les barreaux, la rumeur lointaine des trains hors de la prison. Et puis, il y a le thème musical récurrent, le Kyrie de la grande messe en do mineur de Mozart, qui vient souligner la monotonie de la vie en prison et la souffrance qu'elle induit.
Sans occupation, sans nouvelles, dans une solitude effrayante, nous étions une centaine de malheureux à attendre notre sort. Je ne me faisais aucune illusion sur le mien. À m'échapper, fuir.
«
certaine que vous êtes le seul ici qui pense à s'évader. Le seul parce que c'est impossible.
Emmène-moi. Mes dernières volontés, si j'échoue, vous voudrez bien. Je vous le promets.
Évidemment, on s'en doute quand on entend cette magnifique musique, il y a une allégorie religieuse très prégnante tout au long du film. Le film est d'ailleurs sous-titré « Le vent souffle où il veut », une phrase extraite de l'évangile selon saint Jean. Et tous ces prisonniers, en fait, ils font face à une mort quasi certaine. Leur quotidien est rythmé par les détonations des fusillades d'autres détenus, quelque part dans l'enceinte de la prison. Donc chacun sait à quoi s'attendre tôt ou tard. Et Fontaine, en projetant de s'évader, choisit la voie de l'espoir, la seule possible. Mais le film nous montre avant tout le préparatif très détaillé de cette évasion, son côté matériel, son bricolage on pourrait dire, qui le définit en fin de compte comme un modèle du film d'évasion. Donc si vous connaissez par exemple l'excellent film de Don Siegel, L'évadé d'Alcatraz, avec Clint Eastwood, bah, on n'en est pas très éloigné ici. Il y a un suspense tout aussi haletant jusqu'au bout, au moment où un officier nazi signifie à Fontaine la fin de l'instruction de son dossier et l'imminence de son exécution, et qu'il se retrouve, à la veille de son départ, flanqué d'un jeune co-détenu embarrassant. Alors voilà, si vous ne connaissez pas encore Bresson, je pense qu'Un condamné à mort s'est échappé, c'est peut-être la meilleure porte d'entrée de son cinéma unique. Et en tout état de cause, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre inépuisable. Donc à voir et à revoir. Deuxième film dont je vais vous parler, c'est Marie-Octobre de Julien Duvivier, film de 1959. On reste donc dans la seconde moitié des années 50 en France, et il y a un autre point commun avec Un condamné à mort s'est échappé, c'est que le film prend pour cadre la résistance française aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais la comparaison avec le film de Bresson s'arrête là. D'abord parce que le réalisateur Julien Duvivier a un statut tout autre que Bresson. C'est en fait l'archétype du professionnel de la profession, hein, avec des guillemets, comme le disait Jean-Luc Godard avec un esprit caustique non dissimulé. C'est-à-dire que Duvivier, il représente vraiment le cinéma de papa, encore avec des guillemets, ou la qualité française, toujours avec des guillemets. Alors là, c'était un coup de griffe de Truffaut. Donc tout ça, c'est des choses que la Nouvelle Vague a cherché à balayer au début des années 60. Parce que Duvivier, en fait, il tourne depuis l'époque du muet, son premier film date de 1919. Il collabore avec les meilleurs techniciens, les acteurs les plus populaires, et ça donne peut-être à ses films un côté rigoureux, policé, un certain classicisme contre lequel les jeunes turcs de la Nouvelle Vague se sont battus. Il faut dire aussi qu'il y a dans ses thèmes récurrents, et le traitement qu'il leur accorde, un côté conservateur, voire misanthrope. On voit souvent dans ces films des communautés humaines qui se déchirent. C'est le cas par exemple dans La Bandera, sur des légionnaires au Maroc, dans La Belle Équipe, sur un groupe d'ouvriers pendant les années du Front Populaire qui décide d'ouvrir une guinguette après avoir gagné au loto, et précisément dans le film Marie-Octobre, cette fois sous la forme du huis clos. Alors Marie-Octobre, c'est le nom de guerre, le surnom de résistante de Marie-Hélène Dumoulin, interprétée par Daniel Darieux. C'est une jeune couturière pendant la résistance qui a pu ouvrir après la guerre sa maison de haute couture grâce au mécénat de l'industriel François-René Picard qui faisait partie du même réseau de résistants, le réseau Vaillance. Et le chef de ce réseau, qui s'appelait Castille, a été tué par les Allemands en 1943 à la suite d'une trahison qui a précipité la chute du réseau. Alors, lors d'un défilé de sa maison de couture 15 ans plus tard, Marie-Octobre est confrontée à un ancien ennemi devenu un de ses clients qui lui révèle que le traître faisait partie du réseau Vaillance. mais il ne donne pas son identité. Donc Marie Octobre et son mécène Picard décident donc de regrouper, à l'occasion d'un dîner commémoratif, les 10 membres survivants du réseau, devenus pour la plupart des notables, des bourgeois bien installés. Et évidemment, le dîner qui a lieu dans la maison bourgeoise, une magnifique maison de Picard, va tourner en règlement de compte dès que Marie Octobre révèle qu'il y a un traître au sein de l'Assemblée.
Mesdames, messieurs, en raison du caractère particulier du film qui vous sera présenté prochainement, et afin de vous permettre d'en suivre le déroulement dans toute sa continuité, nous ne saurions trop vous recommander de ne pas suivre l'exemple de cet homme. C'est-à-dire de ne pas vous présenter en retard à ce dîner offert par une jolie femme et qui réunit un avocat d'assises, un boucher, un médecin, un serrurier, une couturière bien parisienne, un prêtre, un mauvais garçon, un contrôleur des contributions, un imprimeur, un riche bourgeois, une domestique. Pourquoi des individus aussi différents se trouvent-ils réunis ce soir dans cette maison? Pour un motif grave. Il s'agit en effet de faire toute la lumière sur un événement demeuré mystérieux. De démasquer un assassin. De juger un coupable. De punir un traître. Et si vous n'entendez aujourd'hui aucune des paroles prononcées au cours de cette étrange réunion, c'est afin de conserver intact tout le mystère. De vous laisser toute la surprise de cette enquête inhabituelle. De cette dramatique reconstitution. De ce très surprenant procès.
Un mot sur les interprètes, car ce qui fait le prix de ce film, c'est d'abord son casting de prestige. Donc, j'ai cité Daniel Darieux dans le rôle-titre. Je vais citer la plupart des autres acteurs que vous connaissez, hein, pour la plupart. Alors, il y a Paul Meurice, Serge Reggiani, Bernard Blier, Noël Roquevert, Lino Ventura, Paul Francoeur, Robert Dalban et d'autres encore. Donc, si certains de ces noms ne vous disent rien, bah, tapez-les dans un moteur de recherche et vous verrez qu'il s'agit de visages familiers du cinéma français de l'époque et au-delà, hein, puisqu'on les a vus tourner jusqu'aux années 80 dans les films populaires du cinéma français. Donc dans ce huis clos qui donne la part belle au jeu d'acteurs, tous ces acteurs sont excellents et profitent à plein de la résonance théâtrale de l'intrigue qui se développe au fur et à mesure des souvenirs, des révélations, des prises à partie, des invectives. Il y a un côté ludique qui peut faire penser aux enquêtes policières à la Agatha Christie, mais aussi une gravité qui transparaît dans la mise en scène subtile de Duvivier. En effet, il exploite beaucoup la profondeur de champ. Lorsqu'un personnage parle, on distingue toujours en arrière-plan les visages sévères d'autres personnages, prêts à le déclarer coupable à la moindre incohérence. Et aussi, les visages des acteurs sont très souvent cadrés en légère contre-plongée, ce qui leur donne un aspect imposant. Une autorité brutale qui peut être très vite déniée pour peu que l'un d'eux s'isole de la masse. Et Duvivier utilise aussi avec une ingéniosité remarquable le décor de la maison. Donc les corps se déplacent dans un vaste salon bourgeois, haut de plafond et peu meublé, au point qu'on pense à une authentique scène de théâtre. Et il y a une chorégraphie méticuleuse avec des mouvements de caméra discrets qui permettent d'isoler un personnage ou au contraire de renforcer un groupe en créant un effet de meute. Donc c'est une mise en scène très travaillée qui permet aussi de faire le lien avec le propos qui est tenu par Duvivier, le propos critique sur les lendemains de la résistance, le fait que finalement la résistance ait donné naissance à une catégorie de bourgeois qui reproduisent peut-être malgré eux certains travers de l'époque de la guerre et qui étaient plutôt évidemment du fait des occupants. Donc voilà, Marie-Octobre dans le genre huis clos du film d'anciens combattants qui tourne mal. C'est vraiment un must, donc à voir et à revoir également. Ça ne fait pas partie forcément des films les plus connus de Julien Duvivier, mais c'est vraiment un de ses tout meilleurs films. Et encore une fois, avec un casting aussi incroyable, c'est difficile de faire un mauvais film de toute façon.
La peur d'être fou, allié, marteau comme ici les requins, que j'aimerai qu'on quinte au fond du bocal filé. Ouais, je crains de finir fou, allié, marteau comme ici les requins, sous les tickets au casque pour des cils tropicaux. Pastilles multicolores pour que les dieux décolèrent. Dans la discothèque poussent des palmiers que les crocodiles lacostes. Descendons en parachute dans cet infini paradis. La pensée à ses terres, pas vu des radars satellitaires. Cette île est-elle ici réelle, abandonnée? Ou bien dans ma tête, un récif peuplé de sirènes qui disent que je suis fou, allié, marteau comme ici les requins, que j'aime là. Un tout petit grand café. Elles disent que je suis fou, allié, marteau comme ici les requins, sont les tickets locales pour des cils tropicaux. Et qui sont ces gens qui enfilent des perles pour d'autres vampires? Ouais, où suis-je? Et qui sont tous ces gens qui enfilent des perles pour d'autres vampires?
Alors, pour ceux qui ont de la suite dans les idées et le cœur bien accroché, le troisième film n'est autre que le classique de l'horreur, La Nuit des Morts-Vivants. de George Romero, un film sorti en 1968. Je rappelle tout de même qu'il est encore interdit aux moins de 16 ans. Et pour l'anecdote, ce film y est tombé dans le domaine public très peu de temps après sa sortie en 1968 à cause d'un problème de copyright sur le titre. En fait, le producteur avait oublié de déposer la mention copyright sur le nouveau titre qui avait été trouvé au moment de la sortie du film, et c'est la raison pour laquelle on peut le visionner aujourd'hui, notamment dans la sélection confinée de la médiathèque numérique. Mais alors pourquoi regarder dans notre situation actuelle un tel film ? Parce que bon, c'est sûr qu'on peut trouver quelques résonances avec la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Bah, il n'est pas mauvais en temps de crise de se confronter au mythe fondateur, et La Nuit des morts vivants demeure quand même un des jalons essentiels du cinéma d'horreur. On n'avait pas beaucoup vu de zombies auparavant au cinéma, peut-être en dehors de la mythologie vaudou, et on en verra beaucoup après ce film choc. En fait, Romero a fait du zombie une figure de monstre très familière qui fait partie intégrante aujourd'hui de la pop culture. Ces morts-vivants apathiques, lents, désaxés, qui n'émettent que des grognements stupides et sont mus par un instinct coriace, celui de dévorer de la chair humaine, voire de repeupler les lieux familiers qu'ils ont fréquentés au cours de leur vie. Donc le premier volet de ce qui va devenir une saga a l'allure d'un film d'étudiant fauché, noir et blanc crasseux, acteur amateur, aspect documentaire, et je ne parle pas du maquillage rudimentaire des morts-vivants qui passent a priori pour des individus déguenillés au visage sale. Mais on adhère sans problème au récit qui nous est fait dès le début du film, lorsqu'on suit les pas d'un frère et sa sœur venus fleurir la tombe de leur père dans un cimetière désert. On appréhende la tension étrange qui va rapidement surgir de ce cadre. Ces deux personnages sont agressés par un homme qui erre comme une âme en peine dans le cimetière. Le frère est tué, la sœur réussit à s'enfuir et trouve refuge dans une maison où la rejoint un autre homme. Donc dans cette maison se trouvent également deux couples et un enfant réfugié dans la cave. Très vite, ce petit monde va s'organiser pour résister tant bien que mal aux assauts de leurs étranges agresseurs qui s'agglutinent aux abords de la maison, de plus en plus nombreux. Et ils vont apprendre, donc le groupe des survivants vont apprendre par la radio puis par la télévision la terrible vérité. Il s'agirait de personnes revenues d'entre les morts à cause du seuil de radioactivité très élevé d'une mystérieuse expérience militaire.
Ils sont venus se recueillir sur une tombe.
Ils viennent te chercher, Barbara.
Pourquoi est-ce que t'es si cruel ?
Quoi ?
Pour te montrer un peu plus respectueux.
Maintenant, ils fuient pour sauver leur vie.
Un biologiste de Stockton, Californie, a fait paraître un rapport concernant le phénomène, et en particulier cette espèce d'état de transe.
Chaque refuge est devenu un piège.
Tu crois qu'on va s'en sortir ?
Aidez-moi, vite, venez m'aider !
Et chaque issue...
Et ne vous arrêtez sous aucun prétexte.
...n'est plus qu'une impasse.
Je vous dis qu'ils viennent nous chercher.
De George Romero, La Nuit des morts vivants.
George Romero met en place un huis clos totalement paniqué, avec des personnages qui n'arrivent pas à se faire confiance dans l'adversité. C'est d'ailleurs très audacieux de sa part, compte tenu de l'époque. On est à la fin des années 60, mais la ségrégation raciale vient tout juste d'être abolie. C'est assez audacieux qu'il ait choisi dans le rôle titre un acteur afro-américain, dont le personnage s'avère le plus sensé, le plus maître de lui-même, celui qui a le plus de sang-froid et de jugeote, mais que les autres n'écoutent pas, et qui en bute à une forme d'hostilité mesquine. Il y a donc ce climat de désunion et de panique, en écho aux tensions communautaires de la société américaine, qui s'ajoute à la menace des morts-vivants. Romero utilise des angles de caméra baroques, avec des effets d'inclinaison de l'objectif qui créent une sensation de vertige, et donne l'idée d'un dérèglement violent. Les scènes de violence pure ne sont pas très nombreuses, mais elles sont généralement accompagnées par une distorsion brutale de la musique, avec un effet de réverbération psychédélique qui accentue encore l'irréalité du basculement dans la sauvagerie. Et puis, il faut évoquer la place qui est conférée aux médias, ici la radio et la télévision. Donc le groupe de survivants se réunit autour du transistor et du poste de télévision dans une attention religieuse, en quête d'informations, mais aussi de consignes à suivre pour survivre. Et Romero nous montre des journalistes qui traitent de la crise en n'ayant pas vraiment l'air de croire à ce qui se passe et qui relayent les informations contradictoires des pouvoirs publics, de l'armée, des instances sanitaires, etc. On sent que l'heure n'est pas au recul critique et que la panique, sous un aspect policé, a gagné les plus hautes sphères de la société. Et finalement, la solution qui est préconisée, à savoir laisser les coudées franches à des milices armées pour tuer tout ce qui bouge, va entrer en conflit avec l'espoir de survie, le mince espoir de survie des personnages que nous suivons. On voit d'abord, dans un reportage filmé, un shérif va-t-en-guerre et son armada qui mitraillent les morts-vivants dans un champ. Puis on les voit s'approcher de la maison où sont reclus nos personnages. Et je vous raconte pas à la fin, mais autant dire que c'est très caustique et désespéré. Mais si vous voulez vous amuser à trouver des analogies avec notre situation actuelle, rassurez-vous, les analogies sont très limitées. Hein. Mais bon, je vous encourage quand même à voir ou revoir La Nuit des Morts-Vivants de George Romero. Et pour info, le deuxième volet de la saga, qui s'appelle Zombie ou Le Crépuscule des Morts-Vivants, qui a été tourné en 1978, soit 10 ans après, par le même George Romero. Alors, il n'est pas dans la sélection confinée de la médiathèque numérique, mais il est également disponible sur la médiathèque numérique. Ils ne l'ont pas mis dans cette sélection, alors qu'a priori, il pourrait très bien cadrer, puisqu'il y a un passage de huis clos dans un centre commercial dans lequel les morts-vivants se précipitent, parce que, en fait, comme je vous disais précédemment, ils cherchent à reproduire leurs habitudes de vivants. Donc voilà, là on retrouve l'esprit caustique de Romero qui vise cette fois à critiquer les aspects consuméristes de notre civilisation. Donc un film à voir également sur la médiathèque numérique, une excellente première suite du film inaugural La Nuit des Morts-Vivants. On va finir d'évoquer cette sélection confinée avec un quatrième film, alors cette fois un film plus léger, une comédie, Au Poste, de Quentin Dupieux, qui est sorti en 2018, donc un film relativement récent. Donc une comédie, je disais, mais attention, une comédie absurde, signée par un des cinéastes français les plus singuliers de ces dernières années, donc Quentin Dupieux. Il est également musicien sous le nom de Monsieur Oiseau, il compose de la musique électronique et il a tourné beaucoup de ses films aux États-Unis. Et Au Poste donc est son premier film entièrement français qui reprend une certaine tradition française du film policier où l'interrogatoire prend une place dramatique prépondérante. Il y a ainsi des références explicites au film de Claude Miller, Garde à vue, avec Lino Ventura dans le rôle de l'inspecteur de police et Michel Serrault dans le rôle du prévenu, ou à Peur sur la ville d'Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo, dont l'affiche d'Au Poste reprenait d'ailleurs le graphisme évoquant un mélange de série noire et de glamour très années 70. Donc c'est un territoire du cinéma français populaire qui est très balisé, avec l'enquête de police, le policier charismatique mais un peu ombrageux, le suspect hagard dont on n'arrive pas à établir la culpabilité, donc c'est ce territoire auquel Dupieux fait référence à travers son intrigue qui est très simple. Un homme a découvert un cadavre en bas de son immeuble, il est interrogé par la police, et au cours de cet interrogatoire, l'inspecteur lui fait comprendre qu'il est le principal suspect du crime. Alors, l'essentiel du film tient au dialogue, émaillé de ressorts comiques, de petites anecdotes absurdes, entre ces deux personnages, le flic, le commissaire Buron, qui est interprété par Benoît Poulvorde, et le suspect, un nommé Fugain, interprété par Grégoire Ludig, membre du duo parodique Palmachot. Alors, on ne sort presque pas du bureau du commissaire, qui est baigné en permanence d'une lumière ocre qui accentue encore l'effet vintage en nous donnant l'impression de regarder des vieilles photographies des années 70. On croise quelques autres personnages, pour la plupart des policiers plus ou moins intrusifs, ou un concierge chargé de l'entretien des bureaux. Et tout au long de l'interrogatoire, Fugain, le prévenu, va devoir livrer le récit détaillé de la soirée au cours de laquelle il a découvert le cadavre de la victime. Et Quentin Dupieux, le réalisateur, se sert de cette reconstitution orale pour contourner habilement l'exercice du huis clos. En fait, l'exposé des faits devient un prétexte d'évasion.
Commissaire, Vous avez une minute? Il faut que je vous montre quelque chose.
Merci.
C'est une photo de mur. Oui, une belle photo. C'est un beau mur. C'est un mur bien construit. C'est une belle photo de mur, oui.
Et ça, c'est quoi d'après vous?
Ah oui, en effet. J'aurais dit une petite verge. Hein.
Non, non. C'est un orteil, on a déjà fait les analyses.
Alors pourquoi vous me demandez si vous avez déjà fait les analyses?
C'est évident.
Non, c'est pas évident. Non, Sophie, c'est pas évident. Ce qui est évident, c'est que vous montrez une photo avec d'un mur, avec un orteil qui ressemble à une petite verge. Ça, c'est évident.
On va donc voir des séquences répétées qui suivent le témoignage de Fugain en voix off, avant de revenir de façon de plus en plus abrupte à l'espace-temps réel, à l'ici et maintenant de l'interrogatoire. C'est un procédé narratif assez convenu a priori qui utilise la séquence en flashback et installe le souvenir d'un personnage au centre de l'intrigue. Mais Quentin Dupieux s'amuse à saupoudrer ces scènes d'éléments étranges, comme l'éruption dans son propre souvenir d'un personnage que Fugain ne connaissait pas encore à ce moment-là, ou l'apparition du commissaire Buron lui-même affalé sur le canapé du salon du prévenu qui observe ses déplacements en direct. On a déjà assisté auparavant à la répétition méthodique de plusieurs actions banales, par exemple le personnage qui marche dans le couloir de son immeuble et prend l'ascenseur. Et Dupieux profite de cette saturation comique, cet effet de saturation comique, pour jouer avec la notion de l'objectivité du témoignage qui ne tarde pas à se transformer sous nos yeux en une espèce de fantasme complètement farfelu. Alors la fin du film, elle est très étrange, inattendue, mais elle me paraît à vrai dire un peu bâclée. Mais bon, ça n'enlève rien à l'originalité de cette comédie décalée et ludique, qui joue sur plusieurs niveaux de réalité, comme la plupart des films de Dupieux. Si vous ne le connaissez pas, Quentin Dupieux, vous pouvez, pour information, découvrir deux autres films de ce réalisateur sur la médiathèque numérique. Il y a Réalité, un film de 2015, avec Alain Chabat dans le rôle d'un scénariste de films d'horreur, et Rubber, de 2009, qui suit le périple d'un pneu, oui vous avez bien entendu, un pneu, dans l'Ouest américain. Voilà pour cette sélection dans la sélection de la médiathèque numérique confinée. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres films très intéressants à regarder. Et puis bah, pour la prochaine, pourquoi pas une sélection évasion et grands espaces, en espérant effectivement qu'on ne sera pas confiné pendant des semaines et des semaines et qu'on pourra de nouveau respirer l'air du printemps rapidement. Mais d'ici là, bon bah vous savez ce qu'il vous reste à faire, restez chez vous et puis il y a plein de films à voir sur la médiathèque numérique. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.
Merci d'avoir écouté Nouvelle Vague. On vous souhaite bon courage pour cette période compliquée. Bon courage aux malades, bon courage à ceux qui travaillent et prennent des risques, ceux qui les évitent en restant chez eux, ceux qui ne sont pas tranquilles et tous les autres. Malgré tout, de belles vagues à tous pour surfer sur le printemps, même si ce n'est qu'en pensée.
C'était Nouvelle Vague sur le bouquet Grandvillers.